Vous écoutez Radio France Internationale, il est 8h30 à Paris, 7h30 à Bamako et en temps universel.
RFI Matin.
Toute l'actualité africaine avec Nemo Ampis.
Des arrestations extrajudiciaires dénoncées par un défenseur des droits de l'homme au Mali, Souleymane Camara, vous l'entendrez, évoque un climat de terreur qui s'installe et pointe du doigt la sécurité d'État, tout en réclamant une réforme dans le fonctionnement de la structure étatique. Le cours du riz à la baisse un peu partout dans le monde. Pas au Sénégal, alerte une association de consommateurs alors que le pays est le quatrième importateur d'Afrique. Une semaine d'incertitude qui débute à Walikale Centre dans l'est de la RDC, ville dont le M23 a pris le contrôle la semaine dernière avant d'annoncer son départ. Des combattants s'y trouvent encore et sur place les ravitaillements et l'eau potable viennent à manquer. Et puis ce 24 mars, le RDPC au pouvoir au Cameroun célèbre son 40e anniversaire. Son objectif pour 2025, rester à la tête du pays alors que se profile l'échéance présidentielle. Le début de ce journal au Mali et les inquiétudes du réseau des défenseurs des droits humains qui dénoncent les arrestations et les enlèvements dans le pays. Son président, Souleymane Camara, prend la parole ce lundi. Il demande notamment la judiciarisation de la branche des services de renseignement. Serge Daniel a pu le joindre depuis Dakar.
Le président du réseau des défenseurs des droits humains du Mali se dit inquiet face aux arrestations extrajudiciaires, selon lui de plus en plus nombreuses dans le pays. Souleymane Camara.
Nous soutenons qu'un climat de terreur est en train de s'installer au Mali. Des hommes circulant dans des véhicules sans immatriculation effectuent des arrestations fréquentes, sans mandat judiciaire, et conduisent les personnes enlevées dans des destinations inconnues.
Il pointe du doigt les services de renseignement du Mali, l'Agence nationale de la sécurité d'État.
C'est l'œuvre de la sécurité d'État du Mali, puisque les personnes victimes d'enlèvement puis relâchées l'ont toujours affirmé.
Différentes sources confirment des cas avérés de citoyens détenus sans jugement sur une longue durée dans les locaux des services de renseignement. Le président du réseau des défenseurs des droits humains du Mali réclame un changement dans le fonctionnement de la structure étatique qui a déjà notamment arrêté journalistes, activistes et hommes politiques. Souleymane Camara.
Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de judiciariser ces services de renseignement du Mali pour éviter les abus et les fréquentes violations des droits de l'homme.
Afin de bien faire comprendre sa démarche, Souleymane Camara explique comme d'autres, j'aime mon pays, je ne demande pas la dissolution de la sécurité d'État, mais sa réforme. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Au Togo, le texte de la nouvelle constitution promulguée il y a près d'un an maintenant, en mai 2024, et pourtant, opposition et société civile restent vent debout contre le projet qui a fait passer le pays à un régime parlementaire. Hier, un rassemblement a eu lieu dans le centre de Lomé pour réclamer un retour à l'ancien système. Des centaines de personnes ont écouté chacun des participants. Participants présents, parmi eux Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC. Il estime que la constitution n'a pas été changée dans les normes. Cela a été fait sans la consultation du peuple qui détient la souveraineté. Ce matin sur RFI, on dresse le bilan de la première année au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Dossier complet à retrouver sur RFI.fr sur les différents défis auxquels font face les autorités. Le Sénégal qui, économiquement, reste fortement dépendant des importations pour répondre à la demande intérieure croissante. C'est le cas en tout cas pour le riz. Le pays se trouve à la quatrième place continentale en termes d'importation de riz selon Africa Business Insider avec 500 millions de dollars en 2024. Le cours du riz, largement à la baisse sur le marché mondial, mais les distributeurs sénégalais affirment de leur côté qu'il reste encore des stocks invendus et que les prix ne baisseront qu'une fois ces stocks écoulés. Maître Massok Nakan, président de SOS Consommateurs, appelle l'État sénégalais à prendre ses responsabilités.
Ce qui aurait été juste, c'est que lorsque les cours mondiaux baissent comme c'est le cas actuellement du riz, que les consommateurs finaux puissent en profiter. Bon, l'argument utilisé par les exportateurs qui vous disent qu'ils ont un stock actuel, il faut qu'ils l'écoulent, ça c'est l'argument qu'ils utilisent tous les jours. Ce n'est pas un argument soutenable dans la mesure où, quel que soit le stock qu'ils ont actuellement, lorsqu'il y a augmentation du prix du riz, eux aussi ils augmentent immédiatement. Ils n'attendent pas d'écouler leur stock et continuer à vendre à l'ancien prix. Nous avions fait une proposition depuis juin 2024, nous avions écrit pour proposer au niveau des SOS Consommateurs consommateurs, la création d'une caisse de stabilisation et de péréquation des prix qui permet de stabiliser les prix, qui permet d'avoir un prix fixé par l'État, quelles que soient les variations du cours du riz, les variations du dollar, etc., le coût du transport, quelles que soient les hausses qui augmentent, on n'augmente pas le prix du riz. Et cette stabilisation du prix, c'est aussi bien valable pour les consommateurs de Dakar que pour les consommateurs des régions.
Maître Massok Nakan, président de SOS Consommateurs, au micro de Birahim Touré. Au Burkina Faso, l'association des journalistes dénonce des atteintes à la liberté d'expression et la liberté de la presse, je cite, jamais égalées depuis l'arrivée au pouvoir des militaires par un coup de force en septembre 2022. Gezouma Sanogo, président de l'AJB, dénonce une totale mainmise de l'agence sur les médias publics, dont la RTB, Radio-Télévision Nationale, et l'AIB, l'Agence d'Information Nationale, qui sont devenus, selon lui, les deux outils principaux de propagande de Ouagadougou. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo, et notamment à Walikale Centre, cette localité de la province du Nord-Kivu, dont le groupe armé M23 avait pris le contrôle la semaine dernière. Samedi, les rebelles soutenus par le Rwanda avaient finalement annoncé leur retrait, mais des combattants étaient toujours en ville, au moins jusqu'à hier, selon des habitants joints par RFI. Je vous propose d'écouter ce matin l'un d'entre eux. Il évoque des moments très compliqués ces derniers jours.
Présentement, nous vivons des conditions très compliquées, vu l'afflux de gens, l'afflux de réfugiés qui viennent de partout et les autres qui sont réfugiés dans des forêts. Nous sommes séparés de nos familles. Lorsqu'il y a eu des bandades, il y a des familles qui ont perdu les enfants, il y a des enfants qui se sont vus seuls, sans parents. C'est ça la situation que nous traversons. Mais sur les places sanitaires, nous avons du mal à accéder à l'eau potable. C'est trop alarmant. Les routes sont dévastées, les maisons sont pillées, les boutiques ont été pillées partout. Les populations vivent des moments très, très difficiles ici à Walikale. Il y a la terreur qui s'installe chaque jour. Et nous avons appris également que les rebelles ont signé un communiqué disant qu'ils devaient se retirer, mais nous ne voyons pas vraiment ce signal, nous ne voyons pas vraiment des signaux de retrait. Vraiment, nous vivons des moments très, très compliqués dans la cité de Walikale.
Cet habitant de Walikale Centre qui a pu joindre Guillaume Thibault. J'ajoute que Michel Motomouima, un député membre de la majorité, a saisi ce week-end la chambre basse du Parlement pour dépêcher sur place une mission humanitaire d'urgence. Lui estime à environ 20 000 ménages qui ont dû fuir sans aucune assistance humanitaire apporté. Au Cameroun, 2025 rime avec année présidentielle. C'est également cette année que le RDPC souffle ses 40 bougies, lui qui aimerait comme cadeau d'anniversaire à se maintenir au pouvoir. Un scrutin pour lequel Paul Biya, 92 ans, dont 43 a déjà passé au pouvoir, est annoncé comme le candidat statutaire du parti. S'il ne s'est pas encore exprimé sur sa participation, le RDPC, sa machine politique, est-elle déjà bien prête dans un environnement politique dominé depuis sa création? RFI Yaoundé, Polycarpe Samba.
C'est à Bamenda, dans le nord-ouest anglophone du Cameroun, que naît le RDPC en 1985. Paul Biya est au pouvoir depuis 3 ans et a déjà eu affaire à 2 importantes crises politiques. La première avec son mentor, l'ancien président Amadou Ahidjo, qui en démissionnant de la présidence avait gardé la main à la tête de l'UNC, le parti unique d'alors. Quelques mois plus tard, en avril 1984, le pouvoir est ébranlé par une tentative de coup d'état qui finit par convaincre Paul Biya de créer sur les cendres de l'UNC une formation politique qui lui est toute dédiée. Le nouveau parti présidentiel, le RDPC, est né. En 1991, avec le retour au multipartisme, le RDPC qui était installé dans le confort du parti unique doit soudainement faire face à sa première compétition électorale. Le début de la décennie 90 est référencé sur le terrain politique par les années dites de braise. L'opposition pousse pour l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Le RDPC plie, mais ne rompt pas. La conférence n'aura pas lieu. En octobre 1992, le président Paul Biya, dans un environnement politique tendu, est déclaré vainqueur de la première élection présidentielle pluraliste face à Ni John Frundi. Depuis cette année-là, le RDPC a travaillé à reconquérir la quasi-totalité des institutions au point de devenir un quasi-parti-État, avec ce que cela peut comporter d'inertie et d'immobilisme, selon certaines critiques des observateurs de la scène politique nationale. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Rencontre hier à Maputo entre Daniel Chapo, le président mozambicain, et son principal opposant Venancio Mondlane, qui revendique toujours sa victoire à la présidentielle. Un entretien pour tenter de mettre fin à des mois de violence post-électorale selon la présidence. La rencontre s'inscrit dans les efforts actuels visant à promouvoir la stabilité nationale et renforcer l'engagement en faveur de la réconciliation, ajoute cette même source qui, par ailleurs, a diffusé une photo des deux hommes en se serrant la main. Et puis le volet santé dans ce journal. On vous en parle beaucoup ce lundi sur RFI. La recherche en génomique qui avance doucement sur le continent africain. Avec ce chiffre d'abord, moins de 2% du génome humain répertorié provient de personnes issues du continent, ce qui représente un gap profond dans les connaissances scientifiques. Et l'un des bons élèves en la matière, c'est l'Afrique du Sud qui fait office de moteur. À Johannesburg, par exemple, à l'université de Wits, eh bien, on parvient à se doter d'équipements de séquençage à la pointe. Et pour mieux comprendre ce processus qui permet de lire l'ADN, comprendre les mutations des gènes et prévenir certaines maladies en fonction d'un groupe ou d'une population précise, Valentin Hugues a poussé la porte de l'Institut de biosciences Sydney Brenner de l'université. Reportage.
Tout commence avec quelques gouttes de sang conservées à moins 80 degrés dans un grand congélateur.
Je travaille sur la génétique de la population noire sud-africaine pour voir ce qui peut expliquer une réaction différente au traitement contre l'hypertension par rapport aux populations européennes ou asiatiques.
Pour répondre à ce genre de questions, il faut séquencer les gènes pour les lire dans le détail et les comparer à un gène de référence. Mekouda Nyamouba, doctorant à l'université de Wits, doit d'abord extraire l'ADN.
Ici, nous avons une machine automatisée très sophistiquée. On écrase les cellules et des billes magnétiques attirent l'ADN. C'est une technologie très moderne. On peut traiter plus d'échantillons, on gagne beaucoup de temps.
Une fois l'ADN extrait, il faut préparer le séquençage, amplification de l'ADN, récolte des données, configuration des machines, un processus d'environ une semaine.
Voilà mon séquençage, chaque personne a un identifiant unique, là c'est une personne, ici une autre. Avec le séquençage, nous pouvons trouver la cause profonde du problème que nous examinons. En d'autres termes, une fois qu'on a la cause, on peut dire si une personne a cette mutation, elle sera plus susceptible d'être malade et donc faire de la prévention.
C'est aussi une pratique coûteuse. Plusieurs millions d'euros sont nécessaires pour faire fonctionner un laboratoire comme celui de Wits. Valentin Hugues, Johannesburg, RFI.
9h42 à Johannesburg, c'est à vous Marion Cazanov.
Merci Nemo Ampis.